les conduites suicidaires et la vulnérabilité des personnes, pour comprendre ce qui fait basculer justement de la pensée au geste, et puis les clés pour aider les personnes à risque. C'est donc notre dossier dans le cadre de cette journée mondiale de la prévention du suicide. Ce sera le 10 septembre et j'attends dès maintenant vos messages. Ils arrivent d'ailleurs déjà très nombreux avec des témoignages sur la page de l'émission et sur le mot-clé l'attaque. Fabrice Jolan, vous êtes psychiatre au CHU de Nîmes, professeur adjoint de psychiatrie à l'université McGill de Montréal. Vous faites de la recherche sur le suicide, la dépression, notamment dans le domaine de la neuroimagerie. Ça veut dire que le cerveau a des choses à nous montrer sur cette question ?
Bien sûr, c'est comme pour tous les comportements d'ailleurs. Les comportements humains sont d'une grande complexité. Il n'y a pas une manière d'aborder les comportements. Il n'y a pas une manière qui va répondre à tout. Mm-hmm. Il faut avoir une approche psychologique, il faut avoir une approche sociologique, il faut avoir une approche épidémiologique, mais aussi une approche biologique. Et puis les outils que nous avons à disposition aujourd'hui nous permettent de commencer à comprendre comment ça se passe dans le cerveau.
C'est l'objet de votre livre, d'ailleurs, Le suicide, comprendre pour aider l'individu vulnérable, c'est d'aller vraiment sur toutes les pistes scientifiques pour pouvoir étayer justement les propos.
Oui, bien sûr, et puis de faire des liens entre les différentes approches. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen si on veut essayer de commencer à comprendre ces comportements d'une très grande complexité, et en même temps, qui sont sur le plan humain extrêmement tragique et sur le plan scientifique tout à fait fascinant.
Ouais. Lionceau Rose sur Twitter nous dit « Le suicide est pour certains un choix logique, rationnel qu'il faut respecter, ne pas psychiatriser ou moraliser théologiquement ». Ça, c'est en début d'émission que je vous transmets ces mails volontairement.
C'est une question classique. Est-ce que le suicide est l'expression d'un libre choix ? Je ne crois pas. Et la première raison, c'est que de manière très très claire, et c'est important d'avoir cette information, c'est que toutes les études ont montré qu'une personne qui se suicide avait plus de 90% de risque de souffrir d'une maladie mentale au moment où elle fait son geste. Les maladies mentales, c'est au premier rang la dépression, les abus d'alcool et de substances, les gros pourvoyeurs de suicide, les troubles de personnalité, la schizophrénie, l'anorexie mentale. Plus il y a de maladies mentales, et plus le risque est important. Et ça, c'est très très clair. Il y a très peu d'études qui montrent un chiffre aussi fort, 90%. Ce sont les études qu'on appelle d'autopsie psychologique. Il y en a eu dans le monde entier, et toutes vont dans le même sens. La maladie mentale est un grand pourvoyeur de suicide.
Alors, vous venez de prononcer un terme nouveau, en tout cas dans la plupart de nos oreilles, c'est celui d'autopsie mentale,
d'autopsie psychologique
du suicide. Ouais. Ça consiste en quoi exactement?
Alors, autopsie psychologique, quand on a un cas d'une personne qui s'est suicidée, on va essayer d'avoir des informations sur elle en reprenant
par exemple. Auprès de ses proches, par exemple
En interrogeant les proches, oui, on les contacte quelques semaines après, on voit si elles sont prêtes à répondre à ces questions. On interroge aussi les dossiers médicaux quand les personnes sont suivies, etc.
On le fait en France ?
Oui, ça se fait en France. Il y a eu plusieurs études, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites effectivement en Amérique du Nord, mais aussi dans des pays d'Amérique du Sud ou en Asie. Et encore une fois, toutes vont dans le même sens. C'est celle de l'existence d'une maladie mentale sévère au moment de l'acte suicidaire. Et donc, ça va à l'encontre de cette idée d'un choix libre et rationnel, parce que la maladie mentale, dans sa phase aiguë en tout cas, c'est vraiment l'inverse de la rationalité.
Quels sont les chiffres pour la France ? À peu près, on les a aujourd'hui, plus de 10 000 personnes, c'est ça ?
Plus de 10 000, entre 10 000 et 11 000. Il faut savoir que les chiffres de prévalence du suicide sont toujours sous-estimés. C'est un vrai, véritable problème. Donc, à peu près 11 000 personnes en France qui se suicident. Dans le monde, c'est 800 000 personnes, d'après l'OMS, c'est-à-dire une personne toutes les 40 secondes. Ça veut dire que le temps de l'émission, une heure d'émission, une centaine de personnes dans le monde se seront suicidées.
Est-ce que la tendance est à la hausse ou pas ?
Ça dépend des pays. On a plutôt une toute petite baisse là, ces dernières années en France. On puisse vraiment savoir quel est le facteur qui a joué le plus. Peut-être des moyens de prévention plus efficaces, peut-être un traitement plus efficace de la dépression, une reconnaissance de la dépression plus importante. C'est des pistes dont on pourra parler tout à l'heure. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste quand même des taux très élevés. C'est un taux de 17 suicides pour 100 000 habitants, c'est au-dessus de la moyenne européenne.
Les tranches d'âge les plus concernées ?
Il y a deux pics. Le premier pic, c'est entre 45 et 55 ans. Et un deuxième pic, on connaît moins, qui sont les sujets de plus de 75 ans. Donc on n'a pas l'habitude de parler de suicide du sujet âgé, parce que quand on est âgé, on meurt de plein d'autres raisons avant de se suicider. Pourtant, il y a des taux très très importants. Chez l'adolescent, évidemment, il y a aussi les taux ne sont pas aussi importants, mais c'est toujours extrêmement dramatique, évidemment, le suicide d'un adolescent. C'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route.
Extrait du film « La vie des morts » d'Arnaud Desplechin.
Alors, c'est le drame.
Vous savez quoi ?
Je t'ai dit, on sait rien.
Les parents savent pour la drogue ?
Non, bien sûr. Mais ils ne prenaient pas grand-chose, tout à fait normal.
De toute façon, rien de méchant, ils en vendaient un peu et encore.
Potin habituel, quoi. Mais la version officielle, c'est quoi?
En fait, il y a plusieurs versions officielles. Chez nous, on pense que c'est la faute de la fille qui l'a quittée.
Une fille qui l'a tirée 3 fois, c'est la famille. Tire un coup, tout le monde veut le marier.
Bon, plus con, le frère de mamie dit qu'il était somnambule, c'est ainsi.
Bête, on sent toutes les histoires, qu'il aurait fallu plus de discipline, qu'il était perdu, le fils d'une veuve, ses études, enfin tout le monde tape sur sa mère.
C'est immonde.
Sinon, il y a la variante de l'autre côté de sa famille, les parents de sa mère. Patrick est un petit con, c'est un emmerdeur, fait ça pour se faire remarquer. Puis la version Maggie-Lys, il a eu des ennuis mystérieux, il a fait une dépression nerveuse. Enfin, moi, je ne connais pas les problèmes de Patrick.
J'ai jamais fait de dépression nerveuse. Patrick, il est fou, c'est pas nouveau.
Paul, t'en prie.
C'est vrai, il a toujours été fou. Quand il était petit, il était déjà fou.
Voilà, c'était en 1991, hein, la date de sortie de ce film, l'histoire d'un jeune homme qui tente de mettre fin à ses jours. C'est la famille, hein, qu'on entend, qui attend justement à l'hôpital et qui s'est réunie pour en discuter.
Oui, puis c'est intéressant là ce qu'on entend, parce qu'effectivement, après un acte pareil, soit une tentative de suicide, c'est-à-dire un acte qui n'a pas conduit à la mort ou un suicide abouti, il y a une recherche de l'entourage d'explications,
hein, ouais,
pour comprendre. Et les explications les plus évidentes, ce sont les événements de vie. Sa copine l'a quitté, il a divorcé, il a perdu son emploi, il a des difficultés, il a perdu un être cher. Et ce sont des raisons qui sont évidemment importantes et on les retrouve le plus souvent hein, dans ces études d'autopsie psychologique ou lorsqu'on interroge des personnes qui ont tenté de se suicider. Maintenant, elles ne sont clairement pas suffisantes pour expliquer l'acte suicidaire, parce que ce sont des problèmes de la vie quotidienne qui arrivent à tout le monde. Alors on devrait avoir des taux de suicide bien plus importants si l'adversité était la seule explication. Et donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est finalement comment les gens vont réagir face à cette adversité.
Et pourquoi certaines personnes, justement, vont aller jusqu'à commettre un acte irréparable, alors que d'autres vont gérer ces événements de façon tout à fait différente. Ça, ce sont des pistes de recherche, hein, très sérieuses, justement.
Absolument. Et donc, si vous voulez, il y a une succession d'événements qui vont se produire. Vous avez un événement difficile dans la vie, vous allez passer plus ou moins facilement cet événement. D'autres vont avoir des idées suicidaires. Et puis certaines personnes vont avoir des idées suicidaires et puis la crise va passer, ça va aller mieux, mais d'autres vont aller de la crise suicidaire à l'acte suicidaire. Donc il y a cette succession d'événements qui fait la crise suicidaire et malheureusement chez certains l'acte suicidaire.
Adèle a 25 ans, j'ai fait 2 ans de dépression, 4 tentatives de suicide. Vouloir se suicider, dit-elle, c'est la pire des choses qui me soit arrivée. Je peux vous dire que lorsqu'on commet ce geste, on n'est plus nous-mêmes, on ne réfléchit plus raisonnablement, on est un autre, c'est notre part démoniaque.
Oui, c'est un très bon témoignage. Enfin, il y a un livre que je vous conseille de Al Alvarez, le Dieu sauvage. C'est un artiste anglais qui décrit effectivement ce qu'il a vécu au moment de l'acte suicidaire, ce moment terrible, ce qu'on appelle la crise suicidaire, de douleur, de souffrance, où la pensée devient obsessionnelle, où elle se tunnelise, pour reprendre un terme. C'est-à-dire, il n'y a plus que ça qui compte. La famille ne compte pas, et c'est important pour que les familles sachent que c'est pas parce qu'elles sont oubliées, c'est parce qu'il y a un processus pathologique qui est en cours. Donc c'est pas un acte égoïste, c'est pas plus un acte valeureux. C'est un acte de désespoir terrible, de souffrance intense qui va mener à l'idée que l'acte suicidaire est la seule solution. Donc on est vraiment loin de l'acte rationnel, parce que si on avait le choix, si c'était un libre choix, on envisagerait toutes les possibilités. Dans la crise suicidaire, on n'en envisage plus qu'une. Toutes les autres ont disparu. Donc on est dans un processus qui est extrêmement pathologique, comme un entonnoir, c'est une image qui a été souvent utilisée, où on glisse sur les parois jusqu'à un moment où il n'y a plus que la solution qui est celle du passage à l'acte. Le passage à l'acte, d'ailleurs, lui-même, on peut essayer de le comprendre. Et il y a certains auteurs qui ont dit, mais finalement, la personne ne cherche pas la mort. Ce qu'elle cherche, c'est mettre fin à cette souffrance intense qui dirige ses pensées et ses comportements à ce moment-là. Et ça, c'est un élément important, parce que en termes de prévention, là, il y a des pistes qui sont en train de se développer en termes de recherche pour essayer de comprendre comment on peut arriver à calmer une douleur psychique très importante et donc à court terme prévenir l'acte suicidaire. C'est pas seulement théorique, hein. Ce que je dis là, c'est vraiment ça éventuellement des implications thérapeutiques à l'avenir.
Maxime nous écrit, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de prévention justement du suicide alors qu'il y a 3 fois plus de morts par suicide que par les accidents de la route?
Alors en France, c'est le cas. Dans le monde, c'est pas le cas. On meurt beaucoup plus d'accidents de la route que de suicides, malheureusement. Il y a de la prévention de suicide, mais c'est intéressant de faire le parallèle avec les accidents de la route, parce que ça montre bien qu'on peut diminuer une mortalité qui a été très importante, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un certain nombre de mesures, limitation de vitesse, le port de la ceinture, etc. On peut, il n'y a rien qui est une fatalité, donc on va pouvoir diminuer le suicide, c'est certain. Des mesures de prévention, il y en a, on va en parler,
avec
Jean-Louis Terra, qui connaît très bien cela. Mais il y a des pistes qui ont été montrées. La prévention du suicide, ce qui marche, c'est quoi ? C'est, premièrement, la reconnaissance de la dépression. Dépression, bon, on a parlé de pathologie mentale, mais la dépression est la pathologie mentale la plus fréquente et de loin, et le gros pourvoyeur de suicide. Reconnaître mieux la dépression et mieux soigner la dépression. Actuellement, on considère que la moitié des dépressions ne sont pas diagnostiquées, et la moitié des dépressions diagnostiquées ne sont pas traitées correctement. Bon, donc déjà, on peut faire un gros effort de ce côté-là. Deuxièmement, il y a des mesures collectives qui ont montré leur efficacité. De manière tout à fait surprenante, on pourrait se dire, si par exemple sur un pont vous mettez des barrières, ben vous prévenez, vous réduisez le taux de suicide dans la région. Ça peut paraître surprenant parce que vous dites si on met des barrières,
on va chercher ailleurs.
En fait, le processus suicidaire est tellement particulier, il demande tellement d'énergie, il faut s'opposer finalement à ce qui nous porte, à cette force de vie. Il faut vraiment s'opposer à ça pour se tuer. C'est vraiment un acte qui demande énormément d'énergie. Si vous arrivez sur le pont et qu'il y a des barrières, eh ben, peut-être que vous allez laisser passer, la crise suicidaire va un peu retomber, l'ambivalence va renaître, peut-être quelques forces de vie vont reprendre un petit peu le dessus, et là il y a un petit espoir. Donc ça, l'accès aux médicaments, réduire, compliquer la prise de médicaments, il y a plusieurs manières de faire qui existent et qui sont mises en place progressivement.
Un message de Maurice, voilà 5 ans ma femme se suicidait, rien ne laissait présager un tel geste. La veille, elle me demandait de chercher les chambres d'hôtes pour un voyage, le matin elle est partie en me disant qu'elle allait prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne, et à 16h30, le maire venait m'annoncer qu'on l'avait retrouvée au pied de la falaise. Pourquoi rien ne semble pouvoir arrêter cette pulsion ?
Oui, c'est un témoignage qui illustre bien la complexité de la prévention du suicide, parce que dans de nombreux cas, effectivement, il n'y a pas beaucoup de signes. Il n'y a pas beaucoup de signes, ou alors il y a des signes extrêmement indirects qui ne laissent pas présager que l'issue sera quelques jours après le suicide. C'est très clair, donc ça peut être extrêmement compliqué, effectivement, à prévenir. Il y a des personnes qui vont être très très fortes pour masquer. Une autre chose qui peut être très compliquée, c'est que parfois certaines personnes vont vivre... Alors la crise suicidaire, ça peut être quelque chose, c'est toujours temporaire, enfin c'est le plus souvent temporaire, et ça peut être quelque chose de fluctuant. Donc une personne peut aller mal et puis le lendemain elle va un peu mieux, alors du coup la famille est plus rassurée et puis on fait pas très attention. Mais le processus va continuer derrière. Il y a des personnes qui ont du mal à faire appel, à demander de l'aide. Et puis voilà, c'est compliqué vraiment pour certaines personnes de repérer le suicide.
Docteur Fabrice Jolan, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion. Beaucoup de messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
Question de peau, question de moi, je n'ai toujours pas de réponse. Question de sens, question des mois, je n'ai toujours pas, l'amour n'est-il qu'un mot commun ?
Mathilde Blandino et c'est Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré.
La vie m'est insupportable. C'est le dernier message laissé par Dalida. La chanteuse a été retrouvée morte hier à son domicile à Montmartre, rue d'Orchamps. Le SAMU, alerté par une amie de Dalida, a constaté que la chanteuse s'était suicidée au barbiturique. Personne ne peut dire exactement pourquoi l'interprète de Bambino et de Gondolier s'est donné la mort à l'âge de 54 ans, après 30 ans d'une fabuleuse carrière au Music Hall. L'un de ses proches, Guy Lux, comme tous les amis de la chanteuse, était profondément choqué hier soir en apprenant la nouvelle.
Elle était très seule en ce moment. T'es très seul, je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, la solitude, c'est un peu le fait des grands artistes, mais enfin, c'était une solitude un peu exagérée, elle avait pas... Elle était entourée d'amis, mais je veux dire, elle était seule au fond d'elle-même, c'est ça que je veux dire.
Voilà, c'était en mai 1987, hein, l'exemple d'une artiste pourtant très entourée, aimée du public, et qui pourtant éprouve tellement de solitude qu'elle va jusqu'à passer à l'acte et se suicider.
Oui, le suicide, c'est vraiment un acte solitaire. Hein. On peut être très entouré, mais c'est l'acte d'un individu désespéré. Je ne connais pas précisément ce qui était dans la, je sais pas ce qui était dans la tête de Dalida. Je ne veux pas commenter précisément son cas, mais les artistes sont des gens à risque, évidemment, aussi par leur hypersensibilité, celle qu'ils expriment sur scène, celle qu'on recherche, c'est ce qu'on attend d'eux, et puis en même temps, ça les fragilise.
Ouais, on va parler de la vulnérabilité
tous les jours.
Dans voilà, quelques instants. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur le début de votre ouvrage, justement, parce que vous dites à quel point le suicide est quelque chose de tout à fait universel, et qui a toujours existé quasiment dans l'histoire humaine.
Toujours existé dans l'histoire humaine, on ne sait pas, mais enfin, qui a existé. Enfin, on a des témoignages depuis l'Antiquité. Oui, ouais. On a des témoignages de personnalités historiques, évidemment. On ne parle pas beaucoup du peuple dans l'Antiquité, mais on sait qu'il se suicide énormément. Au Moyen-Âge, c'est pareil. On a énormément de registres, parce que vous savez que c'était criminalisé. Hein. Le suicide n'était pas légal dans beaucoup d'endroits. On punissait la personne qui s'était suicidée, c'est horrible. Dans certaines régions, on pouvait laisser pourrir le corps, le brûler, le traîner la face contre sol. On confisquait les biens, donc c'était une double punition pour l'entourage qui perdait un proche et puis perdait tout. Alors heureusement, ça n'est plus le cas. Le suicide n'est plus criminalisé, mais on a des rapports. Donc et alors c'est très intéressant de se rendre compte que partout dans le monde, et de tout temps, enfin aussi loin qu'on le sache, eh bien, le suicide est associé au même problème de la vie de tous les jours. C'est-à-dire la honte, le désespoir, le rejet social, la désapprobation sociale, la perte d'un être cher chez le sujet âgé, l'isolement,
la douleur. Même chez les Palawan, ce peuple des Philippines qui enregistre un taux bien au-dessus de la moyenne de suicide. Hein.
Alors, c'est pas les Palawan. Alors, les Palawan, c'est un peuple qui vit sur l'île de Palawan, aux Philippines. Ouais. C'est un peuple indigène qui est un peuple absolument fabuleux, parce qu'une population qu'a étudié mon ami anthropologue Charles McDonald, c'est un peuple anarchiste, qui n'a pas de patron, qui vit libre, et qui a un taux de suicide extrêmement faible. Mais dans une petite vallée, toute petite vallée, isolée, ces Palawan ont un taux de suicide extrêmement élevé. Charles a mesuré cela, on y est retourné, on a confirmé que ça continuait, ça persiste depuis au moins 50 ans, il n'y a évidemment pas de registre qui nous confirme cela. Mais le suicide dans cette vallée heureuse, où les gens vivent heureux, etc., eh bien, il y a un taux de suicide qui est très élevé.
Quelles hypothèses sont avancées pour l'expliquer ?
Alors, probablement les mêmes que partout, finalement, avec de petites différences, mais il y a probablement des facteurs génétiques qui sont en jeu, qui ont fait qu'au tout début, il y a dû y avoir une personne qui était plus vulnérable et qui a transmis cette vulnérabilité dans cette population qui ne se mélange pas trop, même avec les autres Palawan, ils restent isolés dans leur vallée, c'est en train de changer, mais pendant longtemps ça a été comme cela, et donc il est possible qu'il y ait eu plus de sujets vulnérables dans cette vallée qu'ailleurs parmi les Palawan, et que cela explique ce fort taux de suicide enregistré dans cette population. On a mesuré la maladie mentale, on a retrouvé des forts taux de maladie mentale, comme on parlait tout à l'heure, on retrouve les mêmes événements de vie précipitants, et encore une fois, gardons en tête quand même que la majorité des gens qui vivent ces événements de vie, même à Palawan, même dans cette vallée de Palawan, ne se suicident pas. Donc il y a des sujets dans ce petit groupe qui sont particulièrement vulnérables, probablement des familles. On va en reparler dans un instant.
Est-ce que c'est un phénomène purement humain, le suicide, ou est-ce que dans le règne animal, on voit des cas précis de suicide ?
C'est une grande question. Depuis le 19e siècle, on se soucie de ce qui se passe chez chez les animaux depuis Darwin, notre parenté avec les animaux. Et alors, il y a des cas décrits, mais je pense que c'est de l'anthropomorphisme très largement. Alors,
vous citez Flipper le dauphin, quand même.
Flipper le dauphin, oui, il y a une personne qui travaillait avec Flipper le dauphin, avec un des Flippers le dauphin, puisqu'il y en a eu plusieurs.
Il s'est suicidé sous ses yeux.
Et il l'a vu, il l'a regardé dans les yeux, et Flipper s'est laissé mourir. Et c'est la preuve pour lui que le suicide existe, et notamment chez les dauphins qui ont un gros cerveau, etc. Ouais. Bon, évidemment, est-ce qu'il n'est pas mort juste de mort naturelle? On peut s'interroger.
Ces chiens qui se laissent mourir après la disparition de leur maître, il y a plein de témoignages aussi en ce sens.
C'est vraiment particulièrement troublant. Puis une étude, vous savez, dernièrement, qui a montré que les chiens étaient particulièrement sensibles à la voix, au contenu. Donc c'est des animaux qui nous accompagnent depuis longtemps, les chiens. Alors peut-être qu'ils ont un certain nombre de choses. Par contre, pour revenir aux animaux, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées chez le singe, et il y a des choses qui sont troublantes, qui ne sont pas du suicide, mais qui sont quand même des comportements apparentés. On montre que les singes qui ont un taux bas de sérotonine, qui est un facteur de vulnérabilité, sont des singes qui sont extrêmement preneurs de risques. Ils vont mourir plus fréquemment parce qu'ils ont tendance à sauter d'arbre en arbre, mais en prenant plus de risques. Les adolescents vont aller se battre avec des singes plus âgés, bien plus costauds qu'eux. C'est très étonnant de voir que ce déficit biologique qui fait le lit du suicide chez l'être humain et de l'agressivité, de l'impulsivité chez l'être humain, fait aussi le lit de certains comportements apparentés chez nos cousins proches.
Ouais. Ouais. Hélène nous dit « Je suis orpheline de père depuis son suicide en 2003. Je ne détiens pas les raisons de son départ. Au fur et à mesure des années, quand même, en levant le tabou, en parlant avec mes proches, j'ai découvert qu'il était vraiment mal dans sa peau. 3 semaines avant son décès, il a consulté un psychiatre. On lui a prescrit un antidépresseur. Et la question d'Hélène est la suivante. Ces antidépresseurs ont-ils levé l'inhibition permettant à mon père de mettre fin à ses souffrances ? Il y a d'autres questions comme ça. Ombrine aimerait que vous puissiez parler des effets indésirables des antidépresseurs anxiolytiques, ce qui paraît quand même totalement paradoxal. Non.
Oui, c'est une question importante qui a été remise sur le tapis de la discussion là, il y a quelques années. Alors oui, les antidépresseurs, ça peut initialement, avant de faire effet sur la dépression, avoir des effets sur l'inhibition. Et donc les premières semaines de prescription d'un antidépresseur sont des semaines sensibles. Les gens peuvent être aussi plus anxieux en début de traitement. C'est un facteur, un effet secondaire bien connu. Donc vigilance quand on commence un traitement antidépresseur, vigilance pour le sujet lui-même, s'il ne sent pas bien, il doit appeler rapidement le psychiatre, vigilance pour le psychiatre ou le médecin traitant, et vigilance aussi pour l'entourage, évidemment, qui doit être informé de ses effets secondaires. Maintenant, il y a une autre question qui a été mise en évidence, il y a un problème qui a été mis en évidence il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'on a repris des études pharmacologiques qui ont été menées, des essais thérapeutiques. Et on a montré très clairement que les antidépresseurs, ça réduit chez l'adulte et le sujet âgé, ça réduit le risque suicidaire. Très clairement, quand vous donnez un antidépresseur versus un placebo, eh bien, les groupes qui sont dans les sujets qui sont dans le groupe antidépresseur réduisent le risque d'idées suicidaires et d'actes suicidaires. C'est vrai chez l'adulte et c'est vrai chez le sujet âgé. Par contre, ça n'est pas vrai chez les jeunes adultes de moins de 25 ans et les adolescents, où là, le risque semble augmenter.
Donc attention, période critique, donc de surveillance accrue.
Ouais. Et les adolescents font des dépressions, de véritables dépressions sévères. Il faut les suivre de près. Il y a des psychothérapies à mettre en œuvre. Et si on n'a pas d'autre choix thérapeutique, eh bien, il faut quand même garder en tête que ces antidépresseurs vont aider beaucoup d'adolescents.
Ouais.
Mais qu'à l'échelle de tous les adolescents qui ont été traités par antidépresseurs, il peut y avoir chez certains une augmentation des idées suicidaires. Donc là aussi, vigilance, il faut que l'adolescent soit informé. Si ça va plus mal depuis le début du traitement, il doit appeler, il doit en parler à ses parents, il doit appeler à son psychothérapeute, son psychiatre, son médecin. Et puis voilà, on arrête le traitement, on le réduit. Il y a des choses à faire, il y a toujours quelque chose à faire.
Allez, on se retrouve dans un instant, Fabrice Jolland. On va évoquer quelques critères de vulnérabilité. Et puis, on rejoindra par téléphone Jean-Louis Terra, qui est psychiatre et qui, lui, va nous parler des gestes de ce qu'on pourrait appeler le secourisme psychique des personnes.
La tête carrée. Sur France Inter.
Fabrice Jolland, le suicide, comprendre pour aider l'individu vulnérable. C'est aux éditions Odile Jacob. Les courriels des auditeurs. Et dans un instant, on sera avec le psychiatre Jean-Louis Terra en ligne avec nous. Deux mots, évidemment, sur la vulnérabilité. On aimerait en dire plus, mais des études sont très poussées là-dessus. Quels sont les facteurs de vulnérabilité qui sont les
Oui, l'idée de comprendre pourquoi une personne face à l'adversité ou en présence d'une maladie mentale va se suicider alors que la plupart ne vont pas le faire. Mmh. Donc c'est un travail très très important pour essayer de prédire et puis d'avoir des outils thérapeutiques. Les deux grands facteurs de vulnérabilité sont des facteurs génétiques, un caractère familial qui a été très clairement montré. Les familles à plus fort risque, il y a eu des études chez les Amish, il y a la famille Hemingway qui est très connue pour cela. Bon, évidemment, il peut y avoir un cas de suicide isolé dans une famille, mais les facteurs génétiques jouent un rôle. Et puis après, il y a les facteurs environnementaux précoces. Et le facteur numéro un, ce sont les maltraitances et les abus sexuels dans l'enfance, qui sont un facteur de risque probablement en jeu pour 30% des suicides. Donc c'est clairement pas tous les cas de suicide, mais un grand nombre de cas de suicide sont liés à des événements précoces très, très négatifs.
Bonjour Jean-Louis Terra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes professeur de psychiatrie à Lyon 1, chef de service de secteur au centre hospitalier Le Vinatier, donc à Lyon, et vous êtes responsable du centre de prévention du suicide qui a été créé il y a 4 ans, avec une équipe mobile psy qui se déplace au domicile des patients en détresse dans des délais très courts. Comment fonctionne cette structure et comment est-ce que vous êtes au courant qu'une personne est dans un état de crise au point de se suicider, justement ?
Alors souvent, ce sont les personnes elles-mêmes qui nous appellent.